와비딜라인데요. 후레우 아레요.
Parcours Suisse, une émission sur la Suisse et les Suisses, animée par Philippe Arondel
et Olivier Betty.
Notre invité est Philippe Alliaume, rédacteur en chef de Suisse Magazine. Le thème de l'émission aujourd'hui, l'armée suisse, une armée pas comme les autres.
Avertissement, ce programme comporte des expressions et des accents qui peuvent heurter certaines sensibilités.
Bonjour à tous sur notre antenne. Eh bien oui, nous allons nous retrouver assez régulièrement, Olivier et moi, pour parler de la Suisse, de l'actualité suisse, mais aussi d'essayer de comprendre ce que les Français voient des Suisses, de façon positive ou négative d'ailleurs. Et on va commencer, vu du côté suisse, avec un petit journal que tu as préparé. Et notamment, effectivement, alors, la première chose dont on va parler, c'est très drôle, c'est très amusant, c'est très sympathique. C'est un pasteur, si j'ai bien compris, qui fait une radio un peu particulière.
Absolument. La radio de l'Emmental, radio Heimatklang, diffuse dans le monde entier au programme Évangile et musique traditionnelle. Heimatklang veut dire en suisse allemand le son de la patrie. Son fondateur, le pasteur Marc Lopper, nous présente les programmes de sa radio.
Radio Heimatklang, musique, votre Herz erfreut.
Vu qu'on n'a pas les moyens de faire une station ecclésiastique 100%, on va laisser la musique populaire à 80% actuellement. On peut dire tous les instruments traditionnels comme le cor des Alpes, mais aussi l'accordéon ou bien la contrebasse. Il y a même aussi les trompettes, les clarinettes. Il y a tous. Ce qui n'est tout d'abord pas accroché au réseau d'électricité. Mais puis ce qui fait partie aussi un peu de la tradition, une fois, de la musique populaire des Alpes. Pour le yodel, il y a aussi des messes de yodel. Et puis si on écoute bien les paroles, on a souvent des allusions religieuses. Alors n'oublions pas que ce sont des bergers dans les Alpes qui sont vraiment à la merci du Seigneur, pour ainsi dire. Et puis il y a toujours une fois des motifs religieux. C'est ça peut-être l'aspect religieux de la musique, mais nous n'avons pas fait le choix que, par exemple, on aurait pris uniquement des chansons de la musique typiquement religieuse. Non, c'est plutôt, ça va de soi qu'il y a toujours ou souvent ces allusions religieuses. Pour l'autre chose, c'est quand même les paroles, la prédication. On n'enregistre pas le culte de dimanche, on prépare une prédication vraiment pour le studio. C'est pas tout à fait la même chose, c'est toute une autre approche que si j'allais à l'église même, puis après on enregistrait ça sur le tas. Parce que on se dit que nos auditeurs et auditrices sont quand même à la maison ou au lit, disent une fois, de l'hôpital, ou bien ils bricolent, ou ils déjeunent, ou je sais pas quoi. Et puis c'est pas tout à fait la même approche et l'écoute. Alors on se dit, on va faire une prédique tout en sachant qu'ils sont comme ci ou comme ça, puis pas dans les bains en écoutant ce qu'on dit. On a certains formats comme, par exemple, que pensez-vous? Par exemple, il y a des auditeurs qui peuvent nous appeler. Que penses-tu de tel et tel problème religieux? Puis nous, on est quatre théologiens et théologiennes qui essayent de répondre. C'est assez marrant, ça. Ou bien, il y a aussi des spots comme, par exemple, on interview un clochard ou un membre du gouvernement. Quel était ton moment le plus heureux de ta vie? Puis on essaye de réfléchir ça un peu à la lumière de l'Évangile.
Radio Heimatklang, musique, votre Herz erfreut.
Suite, hein? Alors, on lui souhaite bon courage, hein, parce que vu ce qu'il vient de nous annoncer, c'est un programme absolument délicieux. Alors, il y a aussi autre chose. D'autres Suisses qu'on va souhaiter un bon courage, c'est pour réécrire, si j'ai bien compris, un nouvel hymne suisse.
Oui, on va essayer, les Suisses vont essayer. Les Suisses organisent en janvier 2014 un concours pour changer d'hymne national. Mal connu des Suisses eux-mêmes, le Cantique Suisse va donc être remplacé. La Société Suisse d'utilité publique organise ce concours sur 6 mois. Les explications de son directeur, Lucas Niederberger.
L'idée, c'était de changer les paroles parce que les paroles de l'hymne actuel sont pas tout à fait à jour, c'est-à-dire ils sont de l'année 1841. Un correspondant d'un journal allemand a dit avec une certaine ironie que notre hymne actuel est un mélange entre un cantique ecclésial et les prévisions météo. Des montagnes, du soleil, du réveil brillant, de la patrie, de... Oui, c'est un peu comme les prévisions météo, comme ce correspondant disait. Ça ressemble beaucoup à un psaume biblique, parce que c'était le compositeur de la mélodie dans le 19e siècle, c'était un moine cistercien. Oui, c'est un psaume religieux, plus ou moins. Il y avait des initiatives pour changer l'hymne en Suisse dans les années 70, 80, 90, tout le temps, soit de la part des politiciens, soit des artistes. Et je crois que ça va marcher parce que, tout d'abord, nous sommes une institution avec une grande tradition. Et dans notre jury, mais aussi dans des groupes qui nous supportent, il y a des personnages de tous les partis politiques, de l'économie, du monde public. Nous avons un jury où sont présentés des professionnels, des textes, des auteurs, des compositeurs. Et un des reproches, c'est que, voilà, c'est un peu l'élite, ce sont des spécialistes qui vont juger sur une hymne à l'avenir. Et nous disons, parmi les premiers 10 contributions, il y aura le public qui, soit à la télévision, soit sur Internet, qui va voter quel est numéro 1 ou 2 ou 3 qui sera présenté au Conseil fédéral. Un critère, c'est le texte. Nous disons, le texte va être basé sur le texte de la préambule de la Constitution suisse, qui date seulement de 1999. Et là, dans la préambule, il y a vraiment des valeurs qui sont très contemporaines, comme par exemple la protection de la création, renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance, la paix, la solidarité, l'ouverture au monde, l'ensemble dans la diversité, le respect de l'autre. Bon, la mélodie nous disant que nous respectons la liberté artistique et en même temps nous disant la mélodie devrait, dans ses lignes mélodiques, en principe, être reconnaissable. C'est un peu comme un dilemme. Les conservateurs ou les traditionnels, ils tiennent plutôt à la mélodie que au texte, vraiment. Donc, changer la mélodie, parce que ça va dans les tripes, quoi. C'est traditionnel, c'est émotionnel. Donc, changer la mélodie d'un hymne, c'est peut-être plus difficile que changer les textes. La ligne mélodique devrait être reconnue, reconnaissable dans l'hymne nouvelle.
Alors, Olivier, il y a aussi un Suisse qui est devenu à la tête, qui est devenu à la tête de l'armée du salut international. Et là, apparemment, il n'a pas été choisi. On pardonnera cet humour par Internet, lui, je pense pas.
Absolument pas. Un Suisse est désormais à la tête de l'armée du salut international. Le général André Cox est devenu, en août dernier, à Londres, le 20e général de l'armée du salut. À 59 ans, ce Suisseau-Britannique a été élu par les 117 officiers du Haut Conseil. Il devient ainsi le leader de près d'1,5 million de salutistes dans le monde. Le général André Cox nous explique depuis Londres en quoi consistait et en quoi consiste sa fonction et sa mission.
Je l'ai dit au moment de mon élection, je ne me définis pas par un rôle ou par une grade quelconque. Moi, j'ai reçu, je pense, à l'âge de 21-22 ans, un appel clair et j'ai réalisé que Dieu m'appelait à être un officier de l'armée du salut et en fait, la grade ou la responsabilité que j'ai ne change en rien cet appel d'être officier, d'être serviteur, d'avoir comme but ou mission principale l'annonce de l'évangile. Donc ça ne change pas en fait fondamentalement. Pour moi, c'est clair que j'ai un rôle et j'ai des responsabilités, mais je dirais que c'est toujours sur cet arrière-fond. C'est un immense privilège d'avoir cette occasion que j'ai actuellement, mais aussi une grande responsabilité, et j'en suis bien conscient. J'exerce un ministère pastoral envers un peu, bon, je ne sais pas ce qu'on les appellerait, mais peut-être les cadres dirigeants de l'armée du salut dans le monde, donc tous ceux qui sont placés avec des responsabilités de direction dans les différents territoires de l'armée du salut, mais aussi donc une fonction spirituelle, responsabilité spirituelle pour les 1,2 million de salutistes à travers le monde. Donc ça fait partie, une grande partie de mes responsabilités. Et donc je voyage passablement pour encourager, pour voir ce que fait l'armée du salut, l'œuvre de l'armée du salut dans différents pays. Donc pour encourager, mais aussi pour exercer un ministère pastoral et spirituel. De l'autre côté, évidemment, l'armée du salut, c'est une grande organisation. On a beaucoup de programmes sociaux à travers le monde. Donc, il y a une fonction administrative, donc stratégie, vision, assurer la gouvernance, si on veut. Je m'occupe pas directement de tous les détails administratifs jour par jour. J'ai un numéro 2, un chef d'état-major qui est plutôt responsable de ce côté, mais donc je voyage passablement. C'est d'être un peu la figure publique dans un sens, le lien entre les différents territoires, parce que évidemment à travers le monde, on a différentes cultures, différentes... Oui, de ce sens, donc un lien international, si vous voulez. On est rentré la semaine passée du Kenya, où on a visité l'œuvre. On a une très grande présence au Kenya. Alors, on a visité plusieurs de nos institutions sociales, notamment une école pour des enfants qui sont handicapés de la vue. L'Armée du Salut était un des pionniers au Kenya de commencer à faire des écoles pour des enfants qui ont des problèmes de la vue. Et aussi au Kenya, une école pour des enfants qui ont différents degrés d'handicap physique. De nouveau, on était un des pionniers dans ce sens.
Fréquence protestante, vous écoutez l'émission Parcours Suisse. Dites-moi Philippe, je vous vois avec des journaux, vous avez lu des journaux français qui parlent de la Suisse.
Eh oui, on va essayer de faire à chaque émission une petite revue de presse assez rapide. On parle en effet de la Suisse aussi en France. Alors, je voudrais signaler, parce que c'est toujours en kiosque, un excellent numéro de la revue L'Histoire avec un article absolument étonnant. C'est un professeur de Neuchâtel et qui nous explique comment Neuchâtel a choisi son dieu. C'était en 1530, tenez-vous bien, sans révolution, sans violence. Eh bien, ils ont voté et ils ont décidé d'être protestants. C'est devenu la première ville, première capitale protestante en Europe, je signale, sans violence. C'est à lire, c'est un professeur et ça vient de sortir, c'est un très très bel article. Alors, on en parle aussi de façon très positive dans Challenge. Alors, bon, je suis régulièrement ce journal, c'est le journal économique. Voilà, on va dire un journal libéral, pro-business, on va dire ça comme ça, comme on dit en France. Et voilà, un article paru au mois d'octobre, Les secrets de la Suisse, pays du plein emploi. Hein, Philippe Allium, ça doit vous intéresser, ça, pays du plein emploi, parce qu'on dit souvent que les Suisses, ben, ils ont résolu le problème de l'emploi, notamment pour les plus jeunes. Une petite réaction.
On a encore quelques chômeurs, on doit en avoir 3%, je crois.
Mais 3%. Voilà, mais c'est un très
ça fait partie des nombreuses choses qui nous manquent et qu'on importe.
Ah, voilà, alors, quel beau pays, si j'ose dire. Voilà, et puis un dernier article avant de continuer l'émission. Alors ça, c'était un peu différent. C'est dans Libération, il y a quelques jours, simplement. Et voilà, c'est sur ce débat, notamment, sur les banques suisses. Voilà, alors on nous dit d'un côté, c'est très intéressant, le secret bancaire, blues helvète. Voilà, mais de l'autre côté, il y a un économiste suisse qui nous dit, oui, mais enfin, pour les petits comptes et les gros comptes, c'est pas du tout la même chose. Les gros comptes, eux, ils sont bien tapis dans les banques suisses, si j'ai bien compris.
Nous allons faire une pause musicale. Bastian Bakker, une star montante en Suisse, on va le découvrir, qui chante Alléluia.
Well, I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I dream. But it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
C'est bon.
Fréquence protestante, parcours suisse. Les Suisses, en septembre dernier, ont dit non à l'initiative populaire qui visait à supprimer la conscription militaire obligatoire. Ils ont dit non à 73,2%. C'était le groupe pour une Suisse sans armée, le GSSA, qui avait fait cette proposition d'initiative.
Tu veux dire à 73%, c'est ça?
Refusé.
Refusé. Alors, Philippe Allium, bonjour. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui dans l'émission. Rédacteur en chef de Suisse Magazine. On s'était déjà retrouvé pour une émission sur l'économie lors de notre mois suisse. Alors, Effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant pour un Français. Je voudrais qu'on commence notre débat sur ce point. C'est que, dans le fond, les Suisses sont, avec les Autrichiens, je crois, les seuls à rester ancrés dans cette idée qu'il faut garder... Alors, je ne sais pas si on dit conscription, service militaire obligatoire, volontaire... Voilà, bon, peu importe le terme, mais ils sont ancrés dans cette idée qu'il faut garder une armée, j'allais dire populaire. Enfin, une armée du peuple, si j'ose dire.
Non. Effectivement, armée du peuple, c'est peut-être le bon terme, dans la mesure où c'est bien l'origine révolutionnaire, je crois, ouais, de cette armée qui explique, ouais, ça. Et sans doute aussi le brassage social qu'elle amène entre les différents, entre campagne et ville, entre les différentes régions linguistiques, entre les différents statuts sociaux. Mais même si on la conserve, on l'a énormément réduite au cours des années, cette armée.
Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez curieux, c'est que l'initiative est venue. Alors, on va peut-être prendre déjà le débat politique dans le fond, parce que c'est la toile de fond. Il est venu, je veux dire, de la gauche suisse. Alors, vous me direz que c'est pas très clair en Suisse, forcément toujours gauche et droite, mais il est venu plutôt d'un groupe axé à gauche, pacifiste, alors même que pendant très longtemps, en préparant cette émission, je me suis aperçu que, dans le fond, la gauche... les progressistes européens ont toujours vu dans la Suisse un modèle en matière de citoyenneté militaire. C'est ça qui est assez curieux. Il y a donc un renversement, je ne sais pas, vous allez nous le dire, peut-être politique ou idéologique en Suisse.
C'est vrai que ça peut étonner, mais comme vous le disiez, le clivage droite-gauche est pas très clair, ouais, en Suisse, enfin en tout cas pas au sens où on l'entend en France. Et ça vient du groupe suisse sans armée, dont le fonds de commerce depuis 30 ou 40 ans, ouais, et double la suppression de l'armée d'un côté et la paix de l'autre, le développement de la paix de l'autre. Donc c'est quand même un fonds de commerce pour que le groupe suisse sans armée compte ses troupes. Ouais. Étonnamment, il fait d'habitude 55-65%. Non, il a fait plus fort cette fois-ci, avec aussi un refus de tous les cantons, ce qui n'est pas forcément
le cas. Explication de l'augmentation de près de 20% de gens qui refusent, ils en ont assez, ils se sont convertis de nouveau à un esprit patriotique.
C'est pas facile de savoir, parce qu'on, je crois que lancer une initiative populaire en Suisse, c'est un sport difficile. Il faut se poser la question de combien de fois on pose la même question et, ouais, à quelle distance dans le temps on peut la poser. On a vu la Suisse adhérer à l'ONU après je ne sais plus combien d'initiatives populaires contre. La Suisse a fini par voter pour au bout d'un moment, c'était à l'époque de Jean-Louis Chevalin. Là, je crois que le groupe suisse sans armée a peut-être eu le tort de poser la question au mauvais moment, un moment où il y a d'autres préoccupations et ce qu'il reste de l'armée suisse, c'est-à-dire 100 000 hommes aujourd'hui, n'était peut-être plus un enjeu aussi important que ce qu'il pensait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, comment dire? Je vois bien en France, il y a des tensions politiques, sociales, elles sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de nouvelles peurs qui naissent aussi en Suisse? Alors on va nous dire, c'est un paradis, pas seulement fiscal, il y a une tranquillité, et on se dit que peut-être, alors, c'est peut-être excessif ce que je dis, mais le monde redevient peut-être un peu dangereux, et l'Europe, qu'on se dit être dans la paix, hors de la dangerosité, peut-être qu'elle commence de nouveau à avoir le sentiment qu'il pourrait se passer des choses, alors lesquelles on ne sait pas très bien, mais qu'il se pourrait passer des choses.
C'est sûr que la Suisse est toujours un petit peu méfiée des, ouais, des mouvements un peu rapides de démantèlement, à part. Mais il n'empêche qu'elle a démantelé une bonne partie de sa défense, elle démantèle ses forts de façon régulière, et là, pour des raisons de changement de stratégie militaire, on considère que enterrer tout le monde dans des forts, comme on l'a fait pendant toute la défense passive, ça n'est plus vraiment d'actualité, ça coûte trop cher et c'est plus le sujet. Ouais. Donc c'est quand même de plus en plus des troupes de spécialistes, des troupes mobiles, et la Suisse tente de faire le grand écart en gardant des troupes de spécialistes, mais par conscription. Mais c'est loin d'être facile vu l'intérieur de l'armée suisse.
Alors, vu de France, on se demande si c'est pas un faux débat. Parce qu'en lisant tout ce que j'ai lu sur le sujet, on se dit, dans le fond, vous venez de nous dire plus de 100 000 hommes, il n'en reste que 100 000, il y en avait 600 000 à peu près avant, au moment de la guerre froide, si j'ai bien compris. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une armée, dans le fond, je dirais pas de volontaires ou de professionnels? Et ce qui fait que la votation qui était faite, qui demandait que ça soit une armée de volontaires, est-ce qu'elle tombe pas un peu à l'eau? Moi, j'ai lu des polémiques en Suisse qui disaient, mais dans le fond, on y est déjà dans cette armée d'une certaine manière. J'exagère un peu, hein, bon, mais.
Je pense que c'est numériquement assez vrai, effectivement. Ouais. Je crois qu'une personne sur deux arrive plus ou moins à se dispenser du service militaire obligatoire ou à se faire dispenser du service militaire obligatoire. Faut pas oublier aussi qu'on a un certain nombre de... Enfin, que le système tel qu'il est conçu nécessitait que les gens fassent beaucoup de services. Ils faisaient trois mois d'abord d'école de recrue. Ensuite, ils faisaient des périodes régulières, de moins en moins souvent, mais ils en faisaient quand même pour étaler leurs 300 jours de service minimum, 360, pardon, sur 10, 15, 20 ans. Et plus tout ce qu'ils faisaient dès qu'ils commençaient à grader, puisque chaque grade successif était conquis par une école du grade, puis une école de recrue pour payer le grade. Donc les gens pouvaient faire des années de service militaire. Et c'est à ce prix-là qu'on avait des militaires relativement compétents. Donc la diminution de la base fait aussi qu'il y a une modification de la sociologie de l'armée suisse avec peut-être un commandement plus spécialisé, des troupes plus spécialisées. On est très proche de ce que vous dites, de la semi-professionnalisation.
Mais il y a quelque chose qui a changé en Suisse. Jusqu'à 50 ans, les hommes devaient faire leur période. Et là, c'est descendu à 32 ans, voire 33 ans. C'est une révolution ou comment on peut l'expliquer?
Là aussi, le problème il est tout bêtement numérique. Les crédits ont été drastiquement diminués. Donc moins de jours, moins de gens. Je crois que tous les paramètres qui permettaient de baisser le nombre de jours et le nombre de francs suisses dépensés par l'armée ont été utilisés. Ça a été l'objet d'affrontements violents au tournant du millénaire, où on avait demandé à l'armée de se réformer, et l'armée a choisi de faire le bras de fer et de dire c'est impossible. Et ce qui fait qu'au lieu d'être réformée de l'intérieur par les militaires, elle a été réformée de l'extérieur par les politiques. Et derrière, elle a crié en disant c'est fait n'importe comment. Certes, mais elle a pris le risque elle-même de ne pas rentrer en voie de réforme.
Est-ce qu'il n'y a pas le poids de l'économie? Parce que alors, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, d'ailleurs, qu'on dit dans tous les pays européens, d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, dans le fond, aujourd'hui, aussi quand on lit un certain nombre de textes, on aperçoit que pour un chef d'entreprise, il y a quelques dizaines d'années, dans le fond, les chefs d'entreprise étaient contents d'embaucher des gens qui avaient fait leur armée, si j'ose dire. C'était un plus. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, il semblerait que le patronat suisse, en tout cas certains de ses éléments, disent « ça nous coûte cher, c'est long, c'est affreux, ça sert à rien », et que d'une certaine façon, l'économisme, si je peux dire comme ça, il dévalorise complètement la fonction militaire. Et j'ajoute qu'en plus, il dévalorise aussi le sacrifice de soi, d'une certaine manière. Parce que dans le fond, mourir pour la patrie, c'est anti-économique, ça sert à rien, alors qu'on est dans un monde où la véritable guerre, elle est une guerre des flux, des capitaux, etc. Je me demande s'il n'y a pas ça aussi un petit peu derrière, comme dans tous les autres pays d'ailleurs. Hein, bon.
Alors c'est vrai que très longtemps, l'armée a eu une fonction annexe de direction des ressources humaines qui ne portait pas son nom, puisqu'on avait l'habitude de dire de quelqu'un, quand sa carrière commençait à monter en entreprise, il est gradé au militaire. On confiait à l'armée le soin de détecter des futurs cadres. Ce que la France redécouvre actuellement d'ailleurs en faisant intervenir ses hauts gradés dans des séminaires de ressources humaines. Donc oui, ça a été le cas, mais ça coûtait cher, puisqu'il ne faut pas oublier que les jours de service coûtaient à l'entreprise. L'entreprise mettait ses employés et ses cadres à disposition de l'armée un certain temps. Et ça pouvait finir par lui coûter cher. C'est vrai qu'à l'époque où il y avait suffisamment de monde dans toutes les entreprises, on s'en rendait moins compte. Maintenant, on dit un jour de travail perdu, une entreprise désorganisée, ça coûte cher. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout un usage de l'armée, que ce soit pour l'aménagement du territoire, pour l'organisation de compétitions sportives, pour le maintien du territoire en état. C'est une sorte de corps d'état civil complémentaire aussi.
Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement on est déjà aussi dans ce que voulaient ces gens qui voulaient la votation? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui disent qu'il faudrait transformer notre armée en armée qui serait utile, il y a l'idée d'utilité, mais on y est déjà d'une certaine façon. Peut-être pas étendue comme on le voudrait, mais on y est déjà, ce que vous nous dites.
On y était déjà dans la mesure où effectivement il y avait pas mal de soldats spécialisés en médecine, en génie civil, en tous les corps de montagne, des compétitions par exemple comme la patrouille des glaciers, qui est une compétition assez connue de ski extrême, n'est possible aujourd'hui que si l'armée l'encadre. Les mauvaises langues diront que c'est l'armée la finance aussi, ce qui est un petit peu vrai, mais...
En parlant de finance, mais le citoyen suisse qui va au service militaire, enfin qui va faire sa période, il est payé par qui et qui paye quoi?
Alors en fait, ses jours de service, il est effectivement, s'il travaille par ailleurs et s'il a un salaire par ailleurs, il continue à percevoir son salaire pendant ce temps-là. Ce qui explique d'ailleurs que la dispense de service était frappé d'un impôt militaire. C'est-à-dire qu'on payait une taxe d'exemption, ce qui était le cas aussi pour les Suisses de l'étranger que nous sommes, qui, s'ils ne servaient pas, devaient payer la taxe d'exemption.
Et alors, j'en fais zoomer sur un cas de figure. Le Suisse qui ne peut pas faire ses périodes militaires, on va dire qu'il est le seul salarié de sa société, il est le patron de la société. Comment il fait? Alors à un moment donné, ça va poser problème.
Alors il y avait quand même un certain nombre d'autorisations de report ou de... plus de report que d'exemption d'ailleurs pour des cas importants. Mais c'était bien expliqué, ça n'est pas pour convenance, c'est pour cas importants. Donc on disait par exemple aux chefs d'entreprise, voire aux chefs d'exploitation agricole, ce qui était parfois encore plus difficile, oui, tu peux choisir ta période, mais la choisir, c'est pas la courber. Donc, tu ne peux pas nous dire que tu as le temps de prendre une semaine, un mois de vacances, mais tu n'as pas le temps de faire un mois de service. Donc, décale-les pendant tes vacances, si tu veux, mais fais-les.
Est-ce qu'il n'y a pas un conflit générationnel ? Parce que quand on regarde les sondages, les statistiques sur le vote, les intentions de vote, je n'ai pas regardé sur le vote réel, on s'aperçoit que c'est les plus anciens qui soutiennent finalement la conscription traditionnelle, si j'ose dire. Les plus jeunes, apparemment, sur la votation, c'était presque 50-50. On a l'impression qu'il y a un conflit un peu générationnel entre les plus jeunes qui disent tout ça, à quoi ça sert finalement, et les plus anciens qui peut-être ont une certaine nostalgie. C'est pas une critique, hein. J'essaie de... Non ?
Oui, mais c'est un peu une tautologie, si vous permettez, qu'à l'époque où la conscription était encore généralisée, les gens de 20 ans n'y allaient pas de bon cœur, certes. Oui. Il y en avait même assez peu qui y allaient de bon cœur. Mais c'est les mêmes qui, 20 ans après, expliquaient comme ils avaient des bons souvenirs de service et passaient leur temps à se retrouver avec leurs copains. Donc, je crois que c'est pas... Le décalage existe, mais je ne suis pas sûr qu'il soit récent.
Je pensais qu'il traduisait plutôt une sorte de les jeunes sont plus modernes, si vous voulez, d'une certaine manière, entre guillemets. Je pensais que plutôt ça traduisait ça, pas pour vous.
Non. Je suis pas convaincu, mais peut-être. Hein, j'ai pas d'argument à opposer contre.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, alors je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est le problème de la neutralité. Parce que la neutralité, c'est une neutralité armée en Suisse. Il faut défendre la neutralité. Alors on peut penser ce qu'on veut de la neutralité. La Suisse a quand même été toujours dans un camp, plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui disent très méchamment...
Un peu des deux ?
Pardon ?
Un peu des deux camps ?
Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui disent c'est une fausse neutralité parce qu'elle a toujours été dans un camp, moins de la guerre froide. La Suisse a quand même choisi son camp d'une certaine manière. Enfin, et même, je dirais, aujourd'hui, on voit bien que dans un certain nombre de choses qui se passent en Europe, on ne peut pas dire que la Suisse soit vraiment anti-américaine, par exemple, hein, je dirais comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur ? Je crois que c'est un débat important, parce qu'on a aussi, moins chez nous, que dans le fond, quelque part, la Suisse intervienne à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, ça peut faire sourire ceux qui nous écoutent, mais en fait, en réalité, est-ce qu'il y aura une projection de l'armée suisse ? Alors, vous me direz où ? Bon, ils n'ont pas de Mali, ils n'ont pas de... Voilà, bon, d'une certaine manière.
La Suisse a eu une très longue tradition d'aller se projeter à l'extérieur. Hein. Ça s'appelait les capitulations. Et même en France, d'ailleurs, elle a pas mal vendu de troupes en France à l'époque de la royauté.
Oui, mais c'est pas tout
et ça s'est mal terminé, d'ailleurs.
Oui, c'est mal terminé.
Il ne faut pas oublier que la constitution actuelle dit explicitement qu'il ne peut être conclu de capitulation militaire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de capituler. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre ses troupes au service d'un État étranger. C'est constitutionnel en Suisse. Donc déjà, ça complique un petit peu les choses pour aller faire des opérations étrangères, même sous mandat ONU, même si on en fait, je crois.
Il y en a quelques-unes, je crois, au Kosovo. Oui. Notamment, il me semble qu'il y a les Suisses qui sont... Alors,
mais souvent non armés.
Sous un mandat, effectivement, Olivier.
Et oui, alors j'étais très étonné, je vais faire la liaison. Sur Internet, j'ai découvert que l'armée suisse était utilisée aussi à l'intérieur pour des manœuvres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait des manœuvres pour se prémunir d'un chaos avec la chute de l'euro, avec un afflux massif de réfugiés en Suisse en venant d'Europe. Ça, c'était il y a un an. Et là, cette année, les Suisses ont imaginé un scénario. La France, une partie du Jura français, attaque la Suisse pour y récupérer des capitaux. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que c'est crédible comme menace ?
Si je puis me permettre, je rajoute une petite question. Dans le fond, comme Bonaparte sous le Directoire, on n'a plus d'argent et Bonaparte, dans le fond, c'est pas très beau. Il envahit l'Italie, il ramène un certain nombre de trésors qui sont toujours là, réclamés par les Italiens, et puis on rafle pas mal d'argent, de vaisselle, etc. Dans le fond, est-ce que c'est complètement absurde ou un petit peu crédible ? Ça paraît.
Je crois qu'il ne faut pas donner une portée non plus énorme à ce qui n'était que la ligne sous-tendant un exercice. L'intérêt était de défendre les frontières ouest de la Suisse contre une intrusion venue de France voisine. Après, il faut faire un scénario et effectivement, on peut reconnaître que le haut commandement a peut-être un tout petit peu manqué de finesse, soit sur la conception du scénario, soit sur sa diffusion. Mais vous savez, on en parlait sur certains blogs, on peut encore imaginer l'année prochaine, ça sera la France envahit la Suisse pour récupérer un de ses ministres des Finances, réfugiés politiques ou économiques. On peut en trouver des scénarios comme ça.
Mais ça rapporterait moins que d'aller faire un raid sur les banques suisses quand même. Je pense, à mon avis, mais enfin, bon, ça rapporterait pas, non ?
Vous savez, les raids sur les banques suisses,
non, c'est de l'humour.
Il y a un pays qui l'a fait, c'était l'Algérie, qui avait mis très longtemps à récupérer la banque du FLN, et avant de se rendre compte qu'elle l'avait rachetée quelques mois avant de faire un raid dessus. Un raid sur les banques suisses, bonne idée, mais à qui appartient l'argent qui est dedans,
hein ? Il me semble même, sans trahir de secret diplomatique, qu'il y a un certain banquier, qui s'appelle M. Genoux, si j'ai bien compris, dont on disait qu'il détenait le trésor du FLN, qui avait des sympathies pro-nazis, pro-palestiniennes, si j'ai bien compris, c'est vrai, et qui était un grand ami de Jacques Vergès.
Tout à fait.
Hein, qui vient de disparaître. Alors, il n'est plus là, il ne pourra pas nous en dire. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Après tout ce qu'on vient de dire, quelles évolutions pourrait y avoir pour l'armée suisse demain? On garde la conscription, mais est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer qu'on revienne vraiment à un vrai service militaire? Parce que, dans le fond, on n'y est plus complètement. Qu'on ait vraiment une armée de milices populaires avec des gens qui sont d'abord affectés à la défense du territoire. Ce qui est apparemment moins le cas aujourd'hui.
Ah non, non, c'est quand même encore le cas. Et c'est encore une des rares armées qui peut mobiliser aujourd'hui à peu près 100 000 personnes qui ont effectivement une arme et qui ont tiré dans l'année. C'est-à-dire pas des gens qui ont appris à marcher au pas il y a 30 ans. Des gens qui savent effectivement où est leur point de mobilisation, qui ont leur arme à disposition, leur équipement à disposition, et qui savent à peu près comment se comporter en cas de mobilisation. Alors, ça reste très, très peu probable dans le contexte...
Très théorique, on va dire.
Très théorique, mais oui. La réalité est là. Au même titre que les centaines de fortins ou de forces souterraines en Suisse ont, pendant 30, 40 ans, grosso modo toute la période de la guerre froide, fait semblant de tirer sur des cibles virtuelles qui étaient souvent dans le village. Mais n'empêche qu'ils savaient approvisionner le canon, le pointer, tirer et regarder où ça tombait, même s'ils le faisaient virtuellement. Ouais. Donc c'est pas parce que l'exercice est virtuel qu'il est forcément dénué de sens.
Non, mais ce que je veux dire, on voit dans tous les textes, quand on parle, quand les recrues suisses parlent, certains nombre, ceux qui sont dans le service militaire, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y sont pas, des choses cruelles dans la presse suisse sur le nombre de députés qui n'ont jamais fait leur service militaire. Il y a un député socialiste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été champion suisse du 800 mètres en Romandie, qui s'est fait déclarer inapte physiquement. Ça fait beaucoup rire dans les cantons suisses. Et donc, la question, c'est de savoir comment ces jeunes pourraient redevenir vraiment, je repose ma question, des militaires vraiment dédiés à la défense du territoire, c'est-à-dire pas seulement, oui, tirer, bien sûr, bien entendu, mais aussi dans une ressource patriotique, parce que j'ai quand même l'impression que le marqueur identitaire du vote de septembre, c'est quand même quelque part, il y a l'économie, il y a les banques, il y a les PME, il y a l'emploi, l'apprentissage, mais il reste la Suisse. Il n'y a pas que les montagnes, je veux dire. Les montagnes sont un marqueur, c'est vrai. Non, mais c'est important. Il y a des sociologues qui disent que le seul vrai marqueur, c'est les montagnes, mais il y a aussi peut-être le service militaire.
Aujourd'hui, je crois qu'on n'a tout simplement plus les moyens d'entretenir plus de 100 000
soldats. Ah, la Suisse n'a pas les moyens de...
Elle a choisi, en tout cas, de ne plus affecter l'argent pour... elle affecte, je crois, 5 milliards de francs suisses annuels, à comparer avec les 30 milliards d'euros français, pour une armée de 100 000 personnes. Elle n'a plus les moyens d'aller au-delà. En tout cas, elle ne se donne plus les moyens d'aller au-delà.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle
Vous avez
pas,
vu
ouais.
les polémiques sur l'achat d'avions de combat.
Oui, alors, oui, justement, c'est une nouvelle intéressante.
La France était extrêmement déçue que la Suisse soit le N+1e pays à refuser d'acheter son Rafale, mais elle l'a refusé quand même pour des raisons de coût. Elle a acheté un avion que Dassault a cru bon d'appeler... Pourquoi un vieux coucou, quelque chose de ce type-là, le Gripen, bon, qui a le mérite de très bien fonctionner en Europe du Nord, elle a acheté ça. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Il n'y a aucune autre raison. Et le crédit parlementaire pour acheter les Gripen a déjà fait beaucoup d'histoires.
Et j'ai une question. Les femmes dans l'armée suisse, est-ce qu'elles sont obligées, comme les hommes, de faire leur service, comme dans d'autres armées du monde, comme au Moyen-Orient?
En Israël, surtout.
Oui, en Israël.
Oui.
Peut-être un peu moins qu'en Israël, on va dire. L'armée suisse a quand même fini par s'aligner sur un certain nombre d'autres choses. Ça n'est qu'en 92, je crois, qu'elle a accepté le service civil, qui est encore quelque chose d'assez important. Et effectivement, elle est mixte aujourd'hui. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'officiers supérieurs femmes aujourd'hui tout à fait reconnus. Donc, sur le peu de Suisses qui servent, oui, il y a des femmes.
Et j'avais entendu parler, question rapide, qu'on pourrait faire participer au service militaire les étrangers, c'est un fantasme?
L'éternel problème d'intégration des étrangers ou des Suisses de l'étranger. Donc non, c'était un projet, mais qui ne tiendra pas la route. Les étrangers résidant en Suisse.
Non, mais des étrangers européens, extra-européens, tous. Non, je pose la question.
Difficile de faire une différence entre les deux.
Non, mais je veux dire, parce que.
Mais il ne faut pas oublier quand même que la Suisse est encore suffisamment prudente pour que les Suisses de l'étranger, il y en a d'autres autour de cette table, n'aient pas le droit de servir en Suisse s'ils servent dans une armée étrangère. Donc on se méfie quand même du Suisse de l'étranger. Donc l'étranger en Suisse, ce n'est pas pour demain.
C'est fou, ça. Mais la question que je voulais. Quel est le risque finalement que ce soit un agent double?
Je crois que c'est un petit peu l'idée, parce que quelqu'un... N'oubliez pas aussi qu'il est resté, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est très longtemps resté un délit pénal en Suisse de servir dans la Légion étrangère, donc la Légion française. C'est une capitulation au profit d'une puissance étrangère. Un pays neutre dont un des ressortissants sert dans une armée étrangère, ça pose un vrai problème de neutralité.
Alors, il y a la question aussi, on peut peut-être terminer là-dessus d'ailleurs, parce que après tout ce qu'on vient de dire, on s'aperçoit que ni pour les Suisses, ni peut-être à l'extérieur. Dans le fond, c'est... La milice armée, c'est un modèle. Alors, je voudrais vous lire, là, Rousseau. Alors, on pense, Rousseau. Je sais, vous souriez. Mais Rousseau, voilà, on lui demandait un texte sur la Constitution en Pologne. Et voilà, Rousseau, voilà. On peut discuter ce qu'on veut de Rousseau. Il disait, l'État ne doit pas rester sans défenseur, je le sais, mais c'est vrai, les défenseurs sont ses membres. Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul doit l'être par métier. Tel fut le système militaire des Romains, tel est aujourd'hui celui des Suisses. Tel doit être demain celui de tout État libre. Et les révolutionnaires français, dont certains étaient un peu d'origine suisse, je pense à Marat notamment, hein. Bon, c'est peut-être pas le meilleur révolutionnaire français. Ok, mais ils y mettaient en avant avec Saint-Just, avec etc. Il y avait la Suisse était présentée un peu comme une sorte de modèle de lutte contre le mercenariat, en quelque sorte, le contrôle populaire de l'armée, pour pas que l'armée devienne une armée putschiste, quoi, finalement.
Mais
alors, c'est peut-être un fantasme.
On en a gardé un point extrêmement important en Suisse. N'oubliez pas qu'en Suisse, le général, donc il n'existe pas en temps de paix, le général n'est nommé qu'en temps de guerre, il est élu par l'Assemblée fédérale. La Suisse
un général
est élu de général.
Il n'y a pas de général pour l'instant.
Il n'y a pas de général, enfin, il n'y a pas de général à l'intérieur de la Suisse en temps de paix. Le titre le plus élevé sera un colonel commandant de corps. Il y a, pour des raisons diplomatiques, des généraux à l'étranger, parce qu'autrement, un attaché militaire qui n'aurait pas le titre de général se retrouverait un tout petit peu en bout de table avec le chauffeur dans un lit diplomatique. Et il y en a en particulier un qui est assez connu, c'est celui qui surveille, enfin la lignée qui surveille l'armistice en Corée depuis les années 50, puisque la Suisse continue à être une des puissances d'interposition.
Attendez, elle n'est pas en Corée quand même, elle n'est pas dans les puissances. Si, elle est présente.
Elle surveille, j'oublie toujours le numéro du parallèle, mais elle surveille
la débarcation. Avec l'ONU, bien sûr. D'accord, dans le cadre, c'est une sorte de CAFOR, enfin c'est un CAFOR, oui d'accord. Dernière question quand même, si vous voyez, sur cette question du modèle, je reviens là-dessus parce que ça me paraît intéressant. Finalement, à part la Suisse aujourd'hui, on avait commencé par ça, mais on va finir par ça. Finalement, il n'y a plus personne qui soutient ce modèle. C'est ça qui est assez curieux. Moi, je suis très frappé. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, comment dirais-je, la peur de la mort, dans le fond, parce qu'on voit en France, avec les conflits qu'on a à l'extérieur, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, on voit que même avec des soldats professionnels, on n'accepte pas la mort de nos soldats, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors ça l'est encore plus pour des conscrits, si j'ose dire. Normalement, ce n'est pas la peur simplement du sacrifice ultime qui freine dans le fond beaucoup d'Européens.
C'est vrai qu'en Suisse, c'est un souvenir un peu plus lointain. Il y en a eu pas mal pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais des Suisses morts en service, autrement que dans des accidents particulièrement regrettables, je ne crois pas qu'on connaisse ça beaucoup.
Voilà.
Donc oui, il y a peut-être cette peur-là et cette distance-là aussi. Il y a une trentaine d'années, je crois, Jean-Pierre Moulin avait traduit un livre de John McPhee assez intéressant qui s'appelait « La place de la Concorde suisse
»,
qui montrait que la Suisse était pratiquement et numériquement le modèle d'Israël. Enfin, l'armée suisse était le modèle de l'armée israélienne. Je crois qu'Israël a un peu augmenté ses troupes entre-temps et on les a pas mal réduites. On n'est plus sur le même modèle aujourd'hui.
Merci. On va vous remercier pour ce premier débat. On se retrouvera, je crois,
le samedi 29 mars 2014 à 16h15.
Voilà, au revoir à tous. À très bientôt sur notre antenne. Layo, wabi di lo, ayo yo, too late, ah ah, ayo yo yo, too late, ah ah, ayo yo yo, too late, ah ah, ayo yo yo, too late, wabi di lo, ngah.